Alors vous écoutez Radio Campus Tours 99.5 et nous sommes toujours présents sur la Vegan Place à Tours pour un ensemble de tables rondes proposées tout au long de la journée sur le plateau. Nous abordons désormais la dernière table ronde de la journée que nous avons voulu consacrer aux animaux dits de ferme, animaux familiers que l'on imagine souvent paisibles dans cet imaginaire de la ferme bucolique qu'on nous présente souvent, mais animaux qui dans notre société actuelle sont surtout massivement exploités et tués dans des conditions souvent terribles comme des associations telles L214 nous donnent régulièrement à le voir. Alors pour cette table ronde, nous souhaitions donner la parole à des actrices et acteurs qui s'engagent à leur niveau et à leur manière pour faire changer le regard sur ces animaux, pour penser et concrétiser une autre relation avec eux et au final pour construire le récit d'un monde possible où ils ne seraient pas exploités et tués. Alors nous recevons aujourd'hui 4 de ces actrices et acteurs. Alors Sébastien Moreau.
Bonjour.
Voilà, vous êtes vulgarisateur scientifique et animateur du site internet et de la chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau. Vous avez publié le livre Les cerveaux de la ferme avec des illustrations de Leïla Benhabid aux éditions La Plage. Je crois que vous étiez d'ailleurs en dédicace tout au long de la journée.
Tout à fait.
Voilà. Et vous allez nous parler de ce que les études scientifiques nous apprennent des capacités insoupçonnées des animaux dits de ferme.
Très bien.
Virginie Sabourin-Vogt, vous êtes la cofondatrice du réseau national des refuges animalistes, un réseau qui fédère des refuges et sanctuaires pour animaux répartis sur tout le territoire. Anne-Lorraine Vigouroux, vous êtes la responsable du refuge L'Autre Ferme, un refuge pour animaux rescapés d'élevage qui se trouve en Charente. Et vous êtes membre du réseau national des refuges animalistes. Vous allez toutes deux évoquer le travail important réalisé par les refuges, à la fois en permettant d'offrir à beaucoup d'animaux un environnement leur offrant une vie respectueuse de leurs besoins et de leur rythme, mais aussi en contribuant à sensibiliser le grand public à une autre manière de vivre avec eux. Enfin, nous accueillons Mathilde Molinéry. Vous êtes la référente coordinatrice du parti La Rêve, Révolution écologique pour le vivant, en région Centre-Val-de-Loire. Voilà, vous m'aviez dit que vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire sur les relations homme-animal et vous allez nous parler des positions et des actions de votre parti en faveur des animaux victimes de l'élevage et des abattoirs. Et nous sommes bien conscients qu'il y a un enjeu politique actuel assez important. Donc je pense que vous allez en parler un petit peu. Eh bien, la parole est à vous. On commence avec vous, Sébastien Moreau.
Ok, donc la question, c'était ce que la science peut nous apporter autour de la connaissance de ces animaux. En réalité, pas mal de choses parce que on est confronté à des individus qui ne sont pas des humains. Et donc, souvent, on va vouloir transposer ce que nous, on pense savoir sur ces animaux-là et qui, en fait, est très différent. Par exemple, ne serait-ce que déjà, si on part dans les perceptions sensorielles, il faut savoir qu'une poule n'appréhende pas le monde comme nous, du tout. Mais alors, vraiment pas. Par exemple, la vue des poules est extrêmement différente. Elle voit beaucoup plus de couleurs. Elle voit pas forcément aussi bien de loin. En revanche, elle voit beaucoup mieux les mouvements. Elle voit les mouvements beaucoup plus, les mouvements rapides, beaucoup plus détaillés que ce que nous on peut voir. Elles perçoivent le champ magnétique de la Terre. Elles peuvent se diriger avec, chose qui nous est totalement étranger. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, le cochon va avoir un odorat incroyable et peut-être que vous allez le voir faire quelque chose et vous dire « Ah ouais, il l'a fait parce que ça... » Non, mais en fait, ça, c'est votre perception d'humain. Lui, il a senti un truc que même pas dans vos meilleurs rêves, vous auriez senti. Et même au-delà de ça, la science nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans leur tête, les différences qu'il peut y avoir avec nous, les points communs qu'il peut y avoir avec nous. Et on a de plus en plus de travaux sur la façon dont ils éprouvent des émotions. Et là, pour les questions qui intéressent cette table ronde, c'est très important parce que pour pouvoir faire des législations, pour pouvoir faire des textes, pour pouvoir faire prendre des décisions, pour qu'un individu compte d'un point de vue éthique, il faut que cet individu puisse ressentir quelque chose. Il faut que ça lui fasse du bien ou du mal les situations dans lesquelles il se trouve. Parce que par exemple, un caillou, si vous lui mettez un coup de pied, ça lui fait ni bien ni mal. On n'a pas besoin de mettre vraiment de réglementation autour de la sculpture, par exemple, qui serait une torture sur les cailloux. Mais en revanche, pour les animaux, à partir du moment où on sait que ça peut leur causer du bien ou du mal, dans ce cas-là, ça va nous poser des questions sur notre relation avec eux. Mais comment on évalue les émotions chez des individus avec lesquels on ne peut pas parler? Parce que la réalité, c'est que comment on sait qu'un humain, par exemple, a mal? La vérité, c'est que vous n'en savez rien. Hein. Pour les personnes qui ont des enfants, quand votre gamin il dit « Ah, je ne veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre », vous n'en savez rien. Il peut très bien mentir ou elle peut très bien mentir et vous n'avez pas plus de preuves que ça. Donc le rapport oral, souvent, c'est ce qui nous permet de savoir ce que l'autre éprouve. Par exemple, si vous allez à l'hôpital et que vous avez mal, à l'hôpital, ils vont vous dire sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal à combien? Ils vont être obligés de s'appuyer sur votre tour. Mais quand on a affaire à d'autres animaux, Ben, c'est pas la même. Parce qu'on n'a pas ce retour. Donc, il faut développer des protocoles pour essayer d'évaluer à quel point, par exemple, une situation va avoir tendance à rendre un animal plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. C'est-à-dire que, par exemple, avant de lui poser une question ou de le mettre dans une situation, vous lui donnez une petite récompense. Et vous regardez si ça change son comportement par rapport à ce qu'il ferait habituellement. Et on se rend compte que oui. Et donc, il y a tout un tas de travaux comme ça qui ont été faits, qui ont permis de montrer, effectivement, les animaux qu'on retrouve dans les élevages sont des animaux qui éprouvent des émotions, qui peuvent éprouver des émotions positives, négatives, qui peuvent être même très complexes. Alors, on va dire, je reste sur les poules, mais j'ai un kiff sur les poules, c'est comme ça. Et par exemple, sur les poules, on a montré qu'elles ressentent de l'empathie pour leurs poussins. Par exemple, si on met un souffle d'air sur le poussin, la poule commence à monter en panique. Mais on a montré aussi que ce n'est pas juste une réaction à ses poussins, c'est-à-dire ce qu'on appellerait une contagion émotionnelle. Ça va plus loin que ça. Il y a un aspect cognitif, c'est-à-dire un aspect de réflexion. Par exemple, vous mettez la poule, imaginez qu'il y ait deux compartiments, un compartiment bleu, un compartiment vert. Non, pas bleu, rouge. Un compartiment rouge, un compartiment vert. Vous mettez la poule dans le compartiment rouge, vous lui soufflez un peu d'air au visage, elle considère que c'est un danger. Elle commence à paniquer un peu, elle fait des vocalisations de danger, ok, cool. Vous la mettez dans la verte, dans le compartiment vert, il se passe rien. Donc la poule apprend, ok, rouge c'est potentiellement dangereux, vert c'est sécurisé, tout va bien. Vous enlevez la poule, vous prenez les poussins de la poule. Elle ne regarde pas à ce moment-là. Et vous leur apprenez soit la même chose que la mère, c'est-à-dire quand vous êtes dans le compartiment rouge c'est dangereux, potentiellement dangereux, quand vous êtes dans le vert il ne se passe rien, soit l'inverse, c'est-à-dire quand ils sont dans le rouge tout va bien, quand ils sont dans le vert, on leur souffle dessus, ils considèrent que c'est un danger. Donc maintenant, vous mettez la poule avec ses poussins et pendant que la poule regarde, vous mettez les poussins qui connaissent la même chose que leur mère, vous les mettez dans le compartiment rouge. Les poussins paniquent, la poule panique, ok, la poule réagit aux poussins. Vous les mettez dans le vert, les poussins paniquent pas, la poule panique pas, tout va bien. Mais on pourrait se dire, la poule se contente de réagir à la réaction des petits. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si elle comprend la situation dans laquelle ils sont et qu'elle transpose ce qu'elle, elle sait à la situation de ses petits? Eh bien, il suffit de prendre les petits qui ont appris l'inverse. Les petits qui ont appris que le compartiment rouge est en sécurité ne vont pas avoir de réaction de panique. Donc, est-ce que la poule va avoir une réaction de panique quand on va les mettre ou pas? Ben, la réponse est oui. La poule panique quand les poussins sont mis dans le compartiment rouge, alors que pour eux, il n'y a aucun danger. Tout va bien, les poussins ils sont cool, ils ne réagissent pas. Au contraire, quand on les met dans la partie verte, à ce moment-là, la mère, elle, est assez cool, mais les poussins paniquent, ce qui fait un tout petit peu paniquer la mère quand même parce qu'elle se demande ce qui se passe, mais ça nous prouve que les poules sont capables, dans une certaine mesure, de comprendre la situation dans laquelle sont les poussins, de prendre sa propre connaissance et de se transposer dessus. Ce qui est assez fou parce que c'est un niveau, c'est un des niveaux les plus élevés de l'empathie, d'observer ça. Et une dernière chose, c'est qu'on peut travailler aussi beaucoup sur leur structure sociale, découvrir comment fonctionnent les structures sociales de ces différentes espèces, et ça peut nous apprendre beaucoup. Notamment, par exemple, en élevage, on fait souvent de la répartition par poids ou par âge. Sauf que ça va causer des gros problèmes, parce qu'une fois qu'une hiérarchie s'est installée entre des animaux, et ben en fait, ils vont arrêter de se battre. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui s'est mise en place, la hiérarchie sert justement à arrêter d'avoir des conflits, les animaux se connaissent, ils savent se respecter plus ou moins les uns les autres, mais dès que vous allez les changer, ben y a deux problèmes qui vont se créer. C'est qu'il faut qu'ils se redosent un peu les uns les autres, qu'ils réapprennent à se connaître, et donc on risque de réavoir des conflits. Et surtout, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les liens affectifs qui se créent. Et selon les espèces et selon les sexes, les liens peuvent être vraiment très forts. Par exemple, les brebis entre elles ou avec leur fille d'un an ont des relations qui sont très proches. On sait que les truies aussi ont des relations qui peuvent être très proches, qui peuvent durer sur des années. Les vaches, c'est le même cas. Il y avait eu des études qui étaient fascinantes sur des... Alors, c'était des zébus, donc qui sont très proches des vaches. Et dans les années, 70... Ils ont montré que pendant 5 ans, 6 ans, ils observaient les deux mêmes vaches en train de manger ensemble tout le temps. Ou alors deux autres vaches qui étaient tout le temps en train de se faire des câlins l'une l'autre. Et à travers 5 ans, la relation restait. Et restait extrêmement stable, extrêmement forte. Et donc, dès qu'on va séparer les animaux pour les regrouper autrement, on brise ce genre de relation. Donc on développe une détresse psychologique aussi qui peut être très importante. Et même sur les modes de vie, par exemple, je terminerai là-dessus, mais vers chez moi, il y a un élevage de chèvres. Et cet élevage de chèvres, les chèvres sont dans une grande prairie. Et il n'y a rien, c'est vraiment que de l'herbe. Mais en fait, les chèvres, ce sont des animaux qui ont une palette de comportements alimentaires énorme. Donc, c'est des animaux qui ont besoin de monter dans des arbres, de rentrer dans des buissons. Ça mange n'importe quoi, des chèvres en plus. Elles ont besoin... D'ailleurs, les chèvres aiment dormir en hauteur. Donc, s'il n'y a pas d'espace en hauteur pour que les chèvres puissent dormir, c'est déjà un problème. Et en réalité, ces chèvres qui sont juste sur une pelouse plate, c'est pas du tout une situation de bien-être pour ces animaux. C'est pas du tout adapté à cette espèce. Les poules, c'est des animaux, par exemple, de jungle, à la base. Donc, si vous ne donnez pas des endroits pour se cacher aux poules, eh ben, elles vont pas se sentir bien. Même si les animaux domestiqués ont quelques différences avec les souches sauvages, parce que les poules ont toujours leur souche sauvage, ça reste quand même des animaux dont le comportement est très, très similaire de la souche sauvage. Donc voilà, c'est un peu tout le genre de trucs que ça peut nous apprendre, avec la communication, enfin bref, voilà, il y a plein de choses.
Donc je vais présenter le Réseau National des Refuges Animalistes qui a été créé il y a maintenant 2 ans. Donc nous avons plusieurs missions, dont celle de faire connaître et reconnaître ces refuges et sanctuaires comme des acteurs essentiels de la protection animale auprès du grand public et des institutions. Donc effectivement, le réseau est consacré aux animaux dits de ferme parce qu'ils sont peu visibilisés, peu connus. Et nous souhaitons qu'effectivement, au travers de la communication que nous allons faire au sujet de ces refuges, on puisse aussi parler autant des animaux qui sont recueillis. Coordonner aussi la communauté des refuges adhérents. À ce jour, ils sont 42. Donc nous avons des missions, effectivement, c'est un réseau de coopération, hein, d'échange, de retour d'expérience sur beaucoup de domaines. Dernièrement, nous avons organisé justement la première journée de rencontre des refuges, des responsables de refuges dans un refuge en Occitanie. Donc ça a été une journée de travail très intéressante, notamment sur beaucoup de sujets. Donc il y a un vrai désir de se rencontrer et de travailler ensemble, de coopérer pour avancer sur différents points. Ensuite, effectivement, les soutenir pour qu'ils puissent pérenniser leur structure. Et là, on va être dans une recherche de financement et comment on peut effectivement travailler sur cela ensemble. Vis-à-vis du grand public, on a des missions de sensibilisation et d'éducation. L'année dernière, on a organisé au CGR de Bayonne une soirée ciné-débat, un autre regard sur les cochons, avec la projection du documentaire The Last Pig d'Alison Argo, suivi de la conférence de Jean-Luc Daube du refuge La Ferme des Nids de Cochons en Alsace, donc qui a parlé de son travail d'enquêteur dans les abattoirs jusqu'à la création de son refuge. On a eu des retours très intéressants sur des personnes qui nous ont fait part effectivement du désir ensuite d'arrêter de consommer ces animaux, clairement. Donc ce travail-là, il est important. Nous, de plus, on est distributeur de ce documentaire en France, donc on va pouvoir organiser d'autres soirées. En ce qui concerne ces structures, effectivement, je considère qu'ils se sont de véritables ambassadeurs. Qui vont permettre de montrer au public qui sont réellement ces individus en dehors de l'exploitation. Quels sont leurs caractères, leurs personnalités, leurs besoins, leurs désirs, leurs chagrins, etc. Donc ils ont un rôle effectivement de sensibilisation qui est essentiel. Donc, et c'est en ça qu'on souhaite effectivement les faire connaître. Quand on parle de refuge, souvent, la première réaction, ça va être « oui, c'est des refuges pour les chiens et les chats ». Non, en fait, il existe d'autres types de refuges qui sont donc pour ces animaux. Et j'ai aussi pu remarquer que les personnes sont étonnées, disent c'est incroyable que ces lieux existent, en fait. Pourquoi ils existent ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux ? Que deviennent les animaux, etc. ? Que font-ils au quotidien ? Et quand j'explique quel est le but, pourquoi ces animaux sont là, je pense que les gens sont réellement touchés. Et là, on montre qu'effectivement, aussi, on peut faire différemment. Voilà. Et considérer ces animaux-là plutôt comme des partenaires que comme de simples ressources à notre disposition. Donc ça peut aussi éveiller de la réflexion, des questions chez les personnes. Et je pense que déjà, si on réussit ces missions-là, c'est important. Et puis tout le travail qu'on fait en interne aussi avec tous les responsables de refuge qui est effectivement très important.
Anne-Lorraine Vigoureux, j'ai fondé le refuge L'Autre Ferme en étant Charente, entre Limoges et Angoulême. Je me suis préparée pendant des années pour fonder ce refuge, pour apprendre à soigner les animaux, apprendre à repérer ce qui ne va pas. Et on accueille actuellement près de 70 animaux. Comme le disait Virginie, les refuges sont encore très peu connus et en tout cas pas reconnus du tout par les autorités, même si la préfecture nous appelle régulièrement quand il y a des saisies à faire, quand il y a des animaux errants, quand il y a des abandons de troupeaux, on appelle les refuges. Là, on se souvient qu'on existe. On se souvient qu'on existe quand il faut faire le... On est soumis aux mêmes règles que les éleveurs en ce qui concerne les examens de santé, etc., et des tests. Là, on a dû faire des prises de sang à tous les moutons, par exemple, pour déceler une maladie qui ne se révèle que pendant la reproduction. Donc, nous, c'est un refuge, il n'y a pas de reproduction. On ne devrait pas être concerné, mais on doit le faire quand même parce qu'il n'y a pas de règles qui s'appliquent aux refuges pour animaux de ferme. En revanche, même si on se souvient de nous pour les, quand on a besoin de nous ou quand on doit nous appliquer les mêmes règles qu'à l'élevage, en revanche, nous, on n'a pas le droit aux aides massives de l'élevage. Il faut savoir que les éleveurs touchent des primes pour le bien-être animal. Or, le bien-être animal en élevage, jusqu'à aujourd'hui, et je vis dans une région d'élevage, je ne vois pas ce que c'est le bien-être animal en élevage. Nous n'avons droit à rien. Quand on doit faire un retrait d'animaux, c'est à nos frais. Les soins sont à nos frais, l'identification, s'ils ne sont pas identifiés, c'est à nos frais, etc. Donc, quasiment tous les refuges sont toujours dans des difficultés de financement, d'organisation, etc., qui sont criantes. Donc, le choix que j'ai fait pour L'Autre Ferme, c'est de ne pas prendre plus d'individus, de ne pas recueillir plus d'individus que ceux dont je suis certaine de pouvoir assurer la qualité de vie, donc en termes d'espace. Les soins, quand ils nous arrivent, généralement, ils ont des besoins très très importants de suivi médical et de remise en confiance aussi, parce que quand on accueille des poules qui sortent d'un élevage industriel, bio ou pas, hein, parce qu'en bio, la poule heureuse que vous voyez sur la boîte, c'est du marketing, ça n'est absolument pas la réalité de ce que vit la poule. C'est uniquement du marketing. Celle qu'on a récupérée, elle venait d'un endroit. Les premières qu'on a récupérées, elles venaient d'un endroit où leur accès à l'extérieur, c'était une cour bétonnée, et c'était un élevage bio. Donc elles arrivent, elles sont malades, elles sont déplumées, elles sont extrêmement anémiées, elles développent très vite des cancers et tout un tas de maladies que les vétérinaires sont peu habitués à soigner. Nous, notre vétérinaire, c'était la première fois qu'on lui amenait des poules, donc il a une connaissance théorique sur les poules, mais il n'est pas habitué à soigner les poules, parce qu'on est les seuls à lui apporter des poules. Personne ne va dépenser 50 euros de vétérinaire pour une poule qui va aller acheter 10 balles au marché. Donc on est confronté à ce genre de difficultés-là, et comme le but c'est de sortir ces animaux de l'enfer et de leur offrir une vraie qualité de vie, c'est-à-dire un environnement qui est, voilà, la possibilité d'escalader des trucs pour les chèvres, de dormir en hauteur, d'avoir un abri, un vrai abri en dur dans chaque prairie, dans lequel ils entrent et ils sortent comme ils veulent. Il n'y a que les poules qu'on enferme la nuit dans leur poulailler, mais toute la journée, elles se baladent librement. Et elles ne cessent pas de me fasciner totalement. Et la compassion aussi entre les poules est quelque chose d'absolument extraordinaire à observer. J'avais souvent entendu que les poules, quand il y en a une qui est malade, les autres vont l'attaquer. Ça n'arrive pas à L'Autre Ferme. Quand il y a une poule qui est malade, elles vont se relayer auprès de celle qui est malade pour lui tenir compagnie, pour lui lisser les plumes. Il y a beaucoup de gentillesse entre elles. Et peut-être que c'est parce qu'elles n'ont rien à craindre, qu'elles ont à manger en suffisance, qu'elles ont un très très grand espace dans lequel vadrouiller. Elles sont toujours par petits groupes, elles se baladent par copines. Il y en a deux, trois par là, deux, trois par là. Et ça rend le coq complètement dingue, parce que lui, il aimerait bien avoir toutes les filles ensemble. Donc lui, il passe la journée à courir comme un malade d'un groupe à l'autre. Et à 8h du soir, il est épuisé. Et il attend en bas du poulailler et il chancelle de fatigue. Et il attend que ces dames rentrent. Et elles sont encore en train de se balader autour. Et c'est extraordinaire à observer. C'est cet espace-là qu'on veut leur offrir. Un espace qui leur permet de révéler, de trouver leur véritable identité, leur individualité. Et donc, si on veut avoir cette qualité-là de l'accueil, que les animaux qui vont arriver chez nous soient vraiment très, très heureux, on ne peut pas être en surcharge. Donc, c'est atroce parce que chaque semaine, on est sollicité pour prendre des animaux, mais on n'en a pas les moyens financiers. On a la surface, on a 12 hectares, hein, mais on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens humains, parce qu'on n'est que deux à être en permanence au refuge, plus des gens en service civique, une personne en service civique. Donc il y a un véritable besoin de faire connaître les refuges, il y a un véritable besoin d'entraide entre les refuges, parce que la cause animale progressant, bon gré mal gré, des gens qui ont un grand cœur, qui se lancent dans ça, mais qui ne sont pas suffisamment préparés, donc il y a besoin de les épauler, pour pas qu'on court à la catastrophe. Et tout ça pour l'autre ferme, en essayant aussi de faire attention à la faune sauvage, parce que la faune sauvage, quand on met des clôtures, nous les animaux qu'on accueille, on est obligé de mettre des clôtures, donc on ajoute des contraintes sur la faune sauvage, alors que la faune sauvage, elle est déjà un espace de plus en plus réduit, qui sont en plus chassés maintenant quasiment toute l'année. Donc on a entouré toutes les clôtures, on a reconstitué des haies qui permettent à la faune sauvage d'être guidée grâce à ces haies. D'un bois, la propriété est bordée par des bois, donc on leur permet comme ça de pouvoir circuler d'un bois à l'autre, ce qui leur permet d'aller se protéger quand il y a de la chasse. Et ça fait 4 ans que l'autre ferme a été ouverte en Charente. Et en 4 ans, les haies commencent à être suffisamment grandes pour que les animaux puissent circuler. Maintenant, on a vu que certains viennent se reproduire là. Ça passe par un étang qui est hors de nos prairies, parce que nous, on leur donne à boire aux animaux qu'on recueille. Mais la faune sauvage, l'étang, il est à elle. Donc, il ne fallait pas mettre l'étang dans nos clôtures pour qu'ils aient toujours accès à cette zone-là. Donc ça pose pour ne pas poser de contraintes à la faune sauvage, on se pose à nous aussi des contraintes. Et donc pour financer tout ça, on se repose fondamentalement sur les gens qui adhèrent ou qui parrainent des animaux, etc. Il y a des grandes fondations ou associations qui viennent à notre secours de temps en temps, comme la Fondation Bardot ou L214. Il y a une grande maison au centre du refuge. Il y a 3 chambres d'hôtes qui permettent de venir s'immerger un peu dans le refuge, mais aussi pour beaucoup de gens de venir découvrir, des gens qui se questionnent, de venir découvrir. On fait une table d'hôtes 100% vegan, évidemment, qui aide des gens à avoir le déclic, parce qu'on fait la petite visite du refuge, ils peuvent observer les animaux, ils peuvent voir les vaches jouer au ballon. Il y a plein de gens qui ne savent pas que les vaches, beaucoup de vaches adorent jouer au ballon. Et donc, quand on les observe, et de faire le lien entre ce qu'on mange et rendre à l'animal son individualité. Que ces espèces aient été créées pour notre usage ne nous donne plus le droit de pouvoir les exploiter, de pouvoir les manger, de pouvoir leur faire peur, leur faire du mal, etc. Voilà.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être ici et échanger avec vous. Je remercie les organisateurs, organisatrices de la Vegan Place de m'avoir permis d'être là. Bon, je ne suis pas très à l'aise dans cet exercice de prise de parole, mais ce sujet me tient vraiment à cœur, alors je vais faire de mon mieux. Brièvement, la révolution écologique pour le vivant, la REV, prône une écologie plus radicale, plus métaphysique, qui est vers la défense du vivant dans son ensemble, à la différence de l'écologie qui est représentée de façon un peu molle et mathématique à la gauche. D'où la création de ce parti, qui est à la fois anticapitaliste, mais surtout et avant tout antispéciste. C'est pour cela que nous avons décidé de rejoindre le Front Populaire, parce que l'on adhère aux idées qui sont défendues par le parti traditionnel, et on pense qu'on a besoin d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui pour véritablement changer notre rapport aux animaux et à notre alimentation. Changer de regard sur nos relations aux animaux, c'est déjà considérer ce que l'antispécisme propose. Donc l'antispécisme, c'est quoi ? C'est une philosophie, un mouvement social, qui soutient que les intérêts des animaux non humains devraient être considérés avec autant de sérieux que ceux des humains. Le spécisme, contre lequel l'antispécisme s'oppose, est la discrimination basée sur l'espèce, similaire au racisme ou au sexisme, mais appliquée aux animaux non humains. Pour donner un exemple imagé, lorsqu'un éleveur caresse son chien ou son chat et tue des veaux, sans vouloir dire qu'il n'a pas d'attachement pour ses veaux, mais quand même, dans les faits, il aurait beaucoup plus de mal à tuer son chien ou son chat. Et ce n'est pas compréhensible parce que l'espèce est différente, mais ça reste un animal sentient. Nous pensons que la capacité à souffrir et à ressentir des émotions confère des droits moraux indépendamment de l'espèce. La sentience, c'est la capacité qu'a un individu à ressentir la douleur, le plaisir, et donc à avoir un intérêt à vivre, et une vie subjective qui nous impose donc de lui donner des droits, notamment les droits négatifs qui sont les plus connus, ne pas être torturé, ne pas être vendu, ne pas être tué et ne pas être enfermé. Aujourd'hui, à travers diverses études, on sait que les animaux ont une conscience. Les éthologues admettent tous l'existence d'une intelligence élaborée des animaux vertébrés et au moins de certains invertébrés comme les pieuvres. De très nombreux animaux vivent intensément leurs plaisirs et leurs souffrances, mais éprouvent des relations très fortes, font preuve d'empathie, préparent des stratégies élaborées, construisent des relations sociales complexes et instruisent leurs petits et leurs proches et développent de véritables cultures. Les différences qu'on peut trouver entre les humains et les autres animaux sont de degré et non de nature. L'élevage est au centre de nos combats. Avant tout, nous sommes contre l'élevage industriel pour des raisons évidentes, celle du ravage sur la biodiversité et sur les animaux. En France, plus de 8 animaux abattus sur 10 sont issus de l'élevage intensif. Selon leur espèce, ils sont enfermés dans des cages, entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, bien souvent conçus sans règles minimales de protection animale, des environnements très pauvres qui sont loin de répondre à leurs besoins biologiques. En élevage standard, les poulets sont sélectionnés génétiquement, nourris et complémentés pour grossir le plus rapidement possible. Ils atteignent aujourd'hui leur poids d'abattage en 35 jours, soit 4 fois plus rapidement qu'en 1950. Cette croissance accélérée provoque bien des souffrances, des boiteries, des malformations des os, défaillances cardiaques ou encore difficultés respiratoires. Les vaches, quant à elles, sélectionnées génétiquement et alimentées pour produire toujours plus de lait, produisent 6700 litres de lait par an, soit 4 fois les besoins en lait d'un veau. Une telle productivité s'accompagne souvent de boiteries et d'inflammation des mamelles et signifie une courte vie. Dans tous les cas, la REV prône une végétalisation de l'alimentation. Elle permet de mieux manger, elle est meilleure pour la santé, alors que l'alimentation carnée augmente les risques des maladies. Pour rappel, aujourd'hui, toutes les grandes institutions appellent au moins à réduire l'élevage, que ce soit d'un point de vue de la santé, avec l'OMS, d'un point de vue économique, avec la Cour des comptes, et d'un point de vue environnemental et climatique, avec le rapport du GIEC. Dans un premier temps, à la REV, on vise l'abolition de l'élevage de masse. Mais en tant que parti antispéciste, il faut bien faire attention au fait qu'on ne vise pas l'élevage des paysans comme un but, une fin en soi. C'est tout de même mieux que l'élevage intensif en termes de bien-être animal, c'est sûr. Mais on voit que ce n'est pas mieux d'un point de vue écologique et d'un point de vue antispéciste. L'année 2024 a été une année qui a encore révélé le mal-être des agriculteurs, agricultrices et des éleveurs et des éleveuses. Nous souhaitons faire de l'agriculture un service public. Un des besoins fondamentaux, se nourrir, nécessite des fonctionnaires mieux traités et en profiter pour faire une transition éthique mieux encadrée avec les moyens de l'État et en finir avec l'élevage in fine. L'accompagnement des éleveurs et éleveuses irait dans ce sens et dans cette prise en charge, à la fois financière et professionnelle. Comme je l'ai déjà dit, on vise l'abolition de l'élevage intensif dans un premier temps, comme première mesure transitoire, et ensuite on irait vers l'abolition de l'élevage tout court. Mais cela passe évidemment par une reconversion des éleveurs éleveuses. Nous avons d'ailleurs un partenariat avec l'association Coexister. C'est une association qui est née en 2018 d'une utopie, celle de prôner la coexistence interespèces. Pour ce faire, un sanctuaire a été créé pour accueillir des animaux dits de rente qui auraient dû partir à l'abattoir. Et la deuxième mission est de proposer un accompagnement aux éleveurs-éleveuses dans une transition qui fait sens pour eux, mais qui a un impact positif sur l'ensemble du vivant. En 2021, les premiers éleveurs-éleveuses avec le souhait de se reconvertir ont pu être accompagnés. Pour l'instant, l'association est située en Suisse et une branche en France est actuellement en train de se développer. Et il y a déjà des membres, il y a déjà des demandes, ce qui est plutôt encourageant et ce qui montre aussi un véritable besoin. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on fait nous et quels sont les combats que l'on porte ? Donc déjà, à l'échelle locale, on a des groupes locaux qui sont présents dans toutes les régions, voire tous les départements en France, et ils s'engagent sur le terrain pour lutter contre des projets d'élevage intensif. Parce que c'est le premier combat que l'on doit porter comme mesure transitoire. Donc, il y a par exemple le cas de la ferme-usine des 3000 bovins, qui est en Haute-Vienne, à Périllac. On a été contacté par le collectif qui a été créé localement dès qu'ils ont appris l'existence de ce projet. Donc, il y a à la fois des actions pour médiatiser l'affaire, une tribune est parue à Publicis, des manifestations sur place et des réunions publiques ont été organisées. Là, on s'organise autour de la consultation publique pour expliquer aux habitants et habitantes pourquoi il est préférable de voter contre ce projet. Ce sera en fait la plus grosse ferme-usine en France, 3000 bovins. En gros, dans ce village, il y aura plus de bovins que d'habitants. C'est quand même fou. Et même en termes de pollution, ça va aussi au-delà de la production qui est amenée par l'élevage en lui-même. Ça amène aussi une grosse pollution environnementale parce que cela oblige à faire des aménagements urbains. Là, en l'occurrence, toute une forêt a été rasée. Et il y a aussi toute la pollution qui s'ensuit avec tous les transports, le passage des camions, etc. Donc il y a ce premier cas. On a aussi le cas des fermes-usines de saumon. Donc à la base, ce projet était celui de Pure Salmon. Une ferme aquacole devait voir le jour à Bordeaux, mais le projet a été abandonné par l'entreprise. Mais là, il y a une autre entreprise qui s'empare de ce même projet. L'entreprise s'appelle Local Océan. Ils veulent en implanter trois en France. La première va être à Boulogne-sur-Mer. Il est prévu qu'elle produise 9000 tonnes de saumon par an dans ce premier port poissonnier. La deuxième ferme-usine serait en Nouvelle-Aquitaine et la troisième en Bretagne. Donc là, c'est un peu les mêmes choses qui sont mises en place par la REV. On a à la fois nos groupes locaux qui s'organisent sur place avec les collectifs pour faire des actions de terrain. Encore une fois, par des consultations publiques, par des manifestations, pour visibiliser le projet en faisant de la communication et de la sensibilisation du grand public. Mais nous essayons aussi de gérer une campagne nationale à ce sujet, d'autant plus qu'Aymeric Caron, notre député, vient de Boulogne-sur-Mer. Donc il devait se rendre sur place de début juillet pour faire une intervention pour que l'on puisse attirer la presse sur ce sujet, si le contexte actuel le permet. Parce qu'en fait, ce qui a fait reculer Pure Salmon à Bordeaux, c'était vraiment le fait que les investisseurs ont pris peur à partir du moment où les médias se sont emparés du sujet grâce au collectif mobilisé sur place ainsi que la REV. On lutte pour la fin des élevages intensifs, mais l'élevage paysan n'est pas une fin en soi non plus. C'est mieux pour plusieurs raisons, mais pas écologiquement. Selon Jean-Marc Gancy, l'élevage paysan est autant un problème, voire plus. Cela paraît contre-intuitif, mais pourtant. Certes, il y a des problèmes avec l'élevage intensif sur les fuites d'azote, sur la concentration, les zoonoses, et cette forme d'élevage est assez insoutenable, elle est à bannir. Mais du côté climatique, cette forme d'élevage est meilleure que l'élevage paysan par tête de bétail. Alors pourquoi ? Donc écoutez-moi bien. Sur la planète, le pourcentage des terres émergées par l'ensemble de nos activités humaines artificialisées, donc les routes, les entrepôts, les villes, est de 1% de l'espace. Le pourcentage des terres émergées dévolues à l'élevage de ruminants dans le monde est de 30% des terres émergées et 77% des terres arables. C'est un tiers du monde émergé des terres qui sont dévolues soit aux prairies, soit aux cultures fourragères pour nourrir le bétail et donc en gros, ça représente tout le continent américain. C'est de l'élevage non indispensable à notre santé et qui bien sûr ravage la vie de milliards d'animaux. C'est fou. et c'est autant d'émissions de méthane, de protoxyde d'azote liées à leur déjection qui sont infiniment plus réchauffants que le CO2. Le fait d'éliminer 30% des milieux sauvages pour y installer des bétails et des cultures fourragères, c'est autant d'écosystèmes habités par les animaux d'élevage qui ont disparu. Le ravage de la biodiversité est bien plus fort dans le cadre de l'élevage paysan. Voici les propos recueillis dans le dernier livre de Jean-Marc Gansil. Alors concernant la loi d'orientation agricole, Émeric Caron met des amendements à l'Assemblée nationale pour végétaliser l'alimentation. Le 5 avril, lors d'une proposition de loi sur l'agriculture portée par Europe Écologie Les Verts, Émeric Caron a défendu un amendement qui proposait des subventions aux éleveurs pour faciliter la transition vers des productions végétales. Et cet amendement a été refusé. Je me permets juste de faire un point en deux minutes parce que mon exposé est bouleversé par la dissolution de l'Assemblée nationale. Car comme le reste des députés, Émeric Caron a perdu son mandat. Nous sommes actuellement en campagne pour le faire réélire aux côtés d'autres candidats rêves. Nous avons rejoint l'Union populaire et ce que va apporter la rêve est très clair, une écologie qui soit radicale, antispéciste et antifasciste. C'est notre proposition au sein du Front populaire. On restera fidèle à ce qu'Émeric Caron a déjà pu faire à l'Assemblée nationale. Donc je vais parler des travaux qui ont été en cours avant la dissolution et qu'Émeric Caron entend reprendre dès qu'il sera réélu. Donc soit, Émeric Caron était en train de rencontrer les représentants des communautés religieuses pour travailler sur une proposition de loi contre le fait qu'on puisse encore abattre des animaux sans étourdissement. Donc c'est une proposition de loi en cours. Aux dernières nouvelles, ça avançait plutôt bien. Cette proposition de loi, c'est aussi dans l'idée de changer, bien évidemment, notre rapport aux animaux. Émeric Caron est également connu pour son combat contre la corrida en réalisant une proposition de loi visant à l'abolir. Je vous parle de cet exemple parce qu'il y a aussi des taureaux qui sont élevés pour la corrida. Et pour aborder un dernier point, à l'échelle nationale, il y a eu des choses faites au sujet de l'expérimentation animale parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont élevés uniquement pour cela. En France, plus de 2,1 millions d'animaux sont instrumentalisés chaque année dans des expériences scientifiques. Dans l'Union européenne, ce sont 22 millions d'animaux qui sont utilisés dans les laboratoires ou élevés puis tués sans même avoir, entre guillemets, servi. L'idée est de porter des propositions de loi pour encourager les substituts, à savoir la création de cellules artificielles. On milite pour qu'il y ait un droit à l'objection sur le fait d'expérimenter sur les animaux, notamment dans les écoles et aussi dans les centres de recherche, ce qui existe déjà dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Italie. Porter des propositions de loi pour débloquer des fonds dans le but de populariser le fait qu'il existe des alternatives, parce que pour l'instant, ce sont des choses qui ne sont même pas vraiment présentées aux étudiants. Et le fait de débloquer des fonds permettrait simplement de promouvoir cela. Donc voilà ce que je peux vous dire de notre positionnement par rapport à la question de l'élevage et des combats menés actuellement par la REV en faveur des animaux victimes d'élevage. Merci.
Merci à vous quatre. Est-ce qu'il y a des questions ?
Si moi je peux me permettre de rajouter quelque chose, que je vois qu'il n'y a pas de questions, ça m'y a fait penser tout à l'heure quand on parlait du refuge. Une autre chose qui est très intéressante et très importante, qui a été apportée par la science et de plus en plus aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir interroger les animaux sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et on voit à quel point le fait d'avoir du contrôle sur son environnement est quelque chose d'absolument capital. Et c'est par exemple ce qu'on va avoir de plus dans les refuges notamment. Et c'est quelque chose qui n'est jamais employé. Et on a montré, par exemple, que des vaches qui doivent attendre qu'une porte s'ouvre ont beaucoup moins de comportements de joie ou de plaisir que des vaches qui apprennent comment ouvrir la porte. Et on a montré aussi de la même manière que des chèvres, certaines chèvres, préféraient répondre à des quiz sur des jeux vidéo pour obtenir de l'eau plutôt que de juste aller chercher de l'eau à la fontaine. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, on se rend compte que c'est les animaux qui sont les plus doués sur ce genre de tâches qui préfèrent faire ça par rapport aux autres. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi bien de comprendre d'un point de vue individuel à quel point C'est pas une chèvre est une chèvre est une chèvre, un peu ce que tu disais tout à l'heure avec les refuges. C'est vraiment des animaux qui vont avoir des individualités très particulières, avec des spécificités très particulières, des goûts très particuliers liés à leur histoire, liés à plein de choses. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des animaux de rente terrestre, mais ça vient d'être mentionné aussi. On a la même chose sur les poissons, en fait. On commence à découvrir comment poser des questions pertinentes aux animaux pour savoir ce qu'eux veulent et ce qu'eux ne veulent pas. Et ce sont des choses qui sont encore assez peu faites, mais qui sont probablement certains points sur lesquels la science va aller dorénavant. Et on a notamment des travaux qui étaient très intéressants sur les chevaux. On avait appris à des chevaux à utiliser des pictogrammes pour dire « je veux une couverture, je veux rester comme je suis », c'est-à-dire avec ou sans couverture, ou « je veux qu'on m'enlève la couverture ». Et on s'est rendu compte que les chevaux, selon la température, selon s'ils étaient très rustiques, avec beaucoup de poils ou pas, etc., ben en fait, ils avaient des préférences qui variaient selon qui, eux, ils étaient et ce qu'était la température à ce moment-là. C'était fascinant à voir comme truc.
Ouais, je le constate tous les jours à la ferme, ces différences dans leur, de préférences, etc. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait encore les moyens de leur acheter des trucs vidéo pour les chèvres, mais j'adorerais pouvoir leur proposer, j'adorerais voir ça. Je voudrais quand même... La science a permis une compréhension absolument géniale le travail de quelqu'un comme Sébastien de vulgarisation pour la porter à la connaissance du grand public est quelque chose d'essentiel qui ouvre les yeux des gens. Mais quelque chose me travaille quand même, c'est que c'est pas parce qu'ils sont intelligents ou mignons ou quoi que ce soit qu'on se doit de les protéger, de les respecter pour ce qu'ils sont. Je n'attends pas des gens qu'ils aiment les animaux. Juste, si on pouvait commencer par les respecter, ce serait déjà un très grand pas. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire aussi à la ferme. On les sollicite très peu. On les observe, on essaye de déceler les besoins ou un comportement qui change. Un comportement qui change, ça indique qu'il y a un truc qui ne va pas. Un comportement qui change brutalement. Et donc, on les observe beaucoup, mais on les sollicite très, très peu. Ils sont en groupe, ils vivent leur vie comme ils le veulent. Et en revanche, ils viennent nous dire des choses quelquefois. Et là, depuis quelques semaines, j'ai une petite poule pondeuse qui est assez fréquemment malade, passée de poule pondeuse d'élevage. Et il y a quelques semaines, elle a refait un séjour dans la maison pour qu'elle soit au chaud et que les soins ça facilitait, que je vérifie qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, etc. Et elle a décidé que finalement, c'était assez cool le salon. Et donc, la journée, elle va se balader avec les autres poules. Et le soir, elle revient taper au carreau pour rentrer. Elle retourne se coucher. Elle a une espèce de grosse caisse à chien. Comme ça, elle a son petit coin à elle avec sa couverture, sa bouffe et tout. Et elle revient se coucher là. Et sa vieille copine était très perturbée et qui dormait avec les autres poules. Et elle était vraiment super, super perturbée. Et je me disais, mince, elle est en train de tomber malade, elle aussi. Et en fait, un jour, je lui proposais de venir dans la maison. Je laissais ouvert en disant, mais viens, viens, Janelle, viens. Et elle voulait pas, elle aime pas trop les humains. Elle a pas peur de nous ou quoi, mais c'est chacun dans son coin. Et puis à un moment, elle est rentrée avec Diane, la petite poule qui a décidé de dormir dans le salon. Et elle est venue avec jusqu'à l'enclos de Diane dans le salon. Et depuis, elle va bien. Et donc, j'arrive pas à trouver d'autres explications pour le moment que Chanel était inquiète que Diane dorme pas dans le poulailler. Et maintenant qu'elle sait où Diane dort, ben, ça va mieux. Parce que c'est vraiment à partir du moment où elle a vu où dormait Diane, ça va mieux. Donc on apprend, on observe, etc. Donc tout ça est très touchant, mais le fait que cette petite poule Chanel ne veuille pas interagir avec les humains, etc. Il y a des moutons, par exemple, qui pendant longtemps systématiquement voulaient me charger. Mais je les respecte et je les aime quand même. Et je leur apporte les soins dont ils ont besoin. Je n'ai pas besoin qu'ils soient mignons ou gentils ou quoi que ce soit. Et souvent dans les discours, ça me manque qu'on le dise pas, ça, qu'ils n'ont pas besoin d'être intelligents. Si un être humain, votre voisin, peut être super con, vous n'avez pas du tout les mêmes idées, on n'a quand même pas le droit d'aller le buter. Voilà, c'est pareil avec les autres animaux non humains, c'est que ils sont comme ils sont. ou même s'il n'avait pas de capacité intelligente, etc. Quelqu'un qui souffre d'un handicap, qui n'a pas de possibilité de communication, ou on doit le respecter aussi, cette personne. C'est pareil pour les autres animaux. Voilà.
Je suis étudiante du coup dans une école de communication et je suis un peu dans le cinéma, ça m'intéresse et je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que la fiction reprenne ces narrations, on va dire, d'idées qui sont intéressantes mais peut-être pas assez écoutées et comprises par le grand public et le cinéma ou la fiction pourrait être un biais pour transmettre ça de manière moins entre guillemets virulente?
À fond.
Je pense qu'il faut généraliser. À chaque fois que je lis un roman, que je vois un film dans lequel il y a un personnage qui s'intéresse à ces questions-là, que cette personne soit mentionnée comme végane ou pas, ou quoi que ce soit, c'est pas la question. C'est juste que ces idées-là fassent partie de ce qui préoccupe la société et de les populariser. Et le cinéma, la littérature, la bande dessinée, tout ça fait beaucoup, beaucoup. Les films pour les Disney avec Ferdinand, le taureau qui avertit les autres taureaux que la corrida, attention la corrida, etc. En fait, tout ça est super précieux. C'est mon avis.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Anne-Lorraine. Il faut écrire de nouveaux récits. Alors peu importe le média. Parce que ces nouveaux récits nous permettront effectivement aussi de changer notre regard, clairement. Et ces récits, ces histoires, on est juste au début de tout ça, en fait. On découvre, grâce à l'éthologie notamment, que effectivement, ce sont des êtres qui sont sensibles, sentients, qui ont des besoins et qui ont une histoire en dehors du refuge et à l'intérieur du refuge. Donc oui, effectivement. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir réaliser un documentaire sur tous ces lieux. Donc ça fait partie... des projets du réseau, justement, pour montrer au grand public, ces lieux existent et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux. Et donc, effectivement, les étudiants sont bienvenus. Tout ce type de projet, nous, on est vraiment preneurs.
Je vais suivre ces réponses-là, vraiment, et même notamment dans la fiction, parce que c'est vrai que là, on parle de cas d'éganisme, de trucs comme ça, mais je pense par exemple à Okja. Qui avait été fait sur Netflix, qui est un très bon exemple de ça, où on est sur de la fiction qui parallèle quand même d'assez proche la réalité. Moi, je suis assez proche du monde du jeu vidéo, et je pense que le jeu vidéo mériterait aussi d'avoir beaucoup plus d'évolution dans ce sens-là, parce que finalement, les animaux se retrouvent beaucoup plus soit très humanisés, soit animalisés d'une manière très brute et très frustre, et mériterait d'être beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là, ouais. J'ai pas entendu, malheureusement.
J'ai l'impression que dans le jeu vidéo, c'est considéré comme des ressources en majorité.
En fait, ça va beaucoup dépendre des jeux. Mais souvent, oui, si on prend des jeux très connus comme World of Warcraft, des choses comme ça, oui, ça va être de la ressource. Mais après, il y en a où ça va être les personnages principaux. Il y a un jeu, j'ai plus le nom exactement, mais où on joue un rat qui s'enfuit d'un laboratoire. Ou si on prend l'Odyssée d'Abe, qui est littéralement une espèce extraterrestre qui s'enfuit d'un abattoir géant. Qui était un jeu très très connu, enfin c'est Oddworld, le truc. Donc ça dépend comment c'est fait, mais c'est vrai que très souvent, ouais, c'est pas énormément travaillé, ça m'a fait de plus.
Hein. Je voulais juste ajouter un tout petit bémol aux réponses par rapport à la fiction. Moi je suis d'accord, parce qu'il faut effectivement changer les modes de narration, inclure les animaux d'une autre façon, etc. Ça, je suis 100% d'accord. Le petit bémol, c'est... si possible, ne pas inclure les animaux, les vrais animaux, dans les films. Parce que, en fait, ça, c'est. Alors, la magie du cinéma fait que ça ne va pas se voir. Et ils vont, effectivement, si l'histoire est bien écrite et tout, le message peut être bien. Mais dans la réalité, ils auront souffert au tournage dans tous les cas. Et même avant et après le tournage, parce que. Il y a la vie d'avant et la vie d'après, où en fait, en général, ils ne font plus rien et ils ne sont qu'à la merci des humains. Donc juste par rapport à ça, c'est mon petit bémol. Après, sur tout le reste de la fiction, oui, évidemment.
Après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les palmes d'og, etc., c'est pas c'est le sens qu'on voudrait prendre. Mais je pense que récemment, j'ai vu un film très intéressant qui s'appelle Vincent doit mourir, de Stéphane Rostand. Et en fait, ça parle pas des animaux, ça parle de la violence dans notre société à travers Vincent, du coup, qui veut se faire tuer par l'ensemble de la France. Bon, à voir, le film, il est sympa. Mais c'est surtout que peut-être sans les animaux, on peut raconter quelque chose de notre société. Et il n'y a pas d'animaux dans ce film, je vous le garantis. Donc voilà, on peut trouver des biais, mais je suis d'accord avec l'exploitation des animaux, ni au cinéma, ni dans la vie. On est d'accord.
Il y a une autre chose, mais en fait, je suis en train de chercher, j'ai un doute, j'espère que je ne me trompe pas, parce qu'en plus, je crois que c'est Fanny Vaucher, qui est la personne avec qui j'ai travaillé sur mon premier bouquin, qui a récemment sorti le test de Simba, et qui en fait est l'équivalent du test sur est-ce que les femmes dans les films ont suffisamment de place, où on répond à toute une série de questions, elle l'a développé pour les animaux. Donc, et c'est intéressant, je trouve, de mettre en place des outils comme ça aussi. J'espère que c'est toi, Fanny, si tu écoutes ça, que c'est quelqu'un d'autre, je suis désolé. Mais je crois que c'est Fanny.
Et votre question ?
Petite indiscrétion. Je crois savoir qu'il y a une fiction qui s'appelle Sanctuaire, qui devrait sortir un téléfilm. Je ne sais pas. Mais je sais que ce téléfilm existe.
Creuser cette indiscrétion.
Je suis en train de le fais de mon côté. J'ai pas toutes les infos, mais je sais que cette fiction existe, voilà. Et ça m'a suffisamment frappé parce que ça, a priori, ça s'appelle Sanctuaire et ça se passerait, ça serait l'histoire. En tout cas, le cadre, ça serait l'histoire de Sanctuaire, voilà. Et sur les je vais plus soyer encore sur les animaux dans les films. C'est la grande mode de mettre des animaux à toutes les sauces, dans toutes les fictions, et on parle aussi des films animaliers, mais pas que, les animaliers fictionnés, les contes pour enfants pour Noël en images réelles, et les fictions lambda, où il y a toujours un animal quelque part. Voilà.
Oui, effectivement, tout à l'heure, quand je parlais des films, je pensais à Ferdinand qui m'est venu comme ça, mais c'est un dessin animé. C'est pas... C'est pas des vrais taureaux, etc. Je suis évidemment opposée à l'utilisation des animaux, même si c'est pour faire du cinéma. Ça a pu m'arriver de me poser la question, par exemple, pour des chiens, parce que dans ma vie d'avant, je produis du théâtre contemporain. Il y avait une compagnie, il y avait un chien qui avait joué dans un spectacle. Et je peux vous dire qu'il était vraiment encore largement plus casse-pied qu'un acteur. Hein. Mais largement, il les battait tous. Ouais. Il adorait ça. Dès qu'on arrivait dans un théâtre, il fonçait sur le plateau. Vraiment, je ne soupçonne pas une seconde que ce chien ait jamais été. C'est juste que ça a correspondu à sa personnalité. Mais le cinéma, le théâtre, n'importe quelle utilisation, comme on peut partir du principe qu'on ne va pas s'intéresser sur la volonté de l'animal sollicité à faire ça ou pas. Donc, partant de là, ça n'est pas possible, en fait.
Oui, c'est même pire que ça. C'est qu'on fait naître des animaux qu'on imprègne pour des films et après, on les laisse tomber. Donc, il y a des films, il y a tout un casting qui est monté de toutes pièces et après, ces animaux sont laissés pour compte. Mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent.
Ça devrait être interdit, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il y a des images de synthèse absolument génialissimes. Il n'y a absolument plus besoin de faire ça. Ça ne se justifie pas.
Surtout quand on sait que c'est compliqué de filmer tout ça en images réelles. Donc la question se pose de se dire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire ça en images de synthèse au final ? Voilà, tout bêtement.
«
J'ai fait un choix, les savoirs libres face à l'abattoir en marche quoi. C'est ce qu'ils me disent et je reste sans voix. Je réparerai pas les dégâts des autres. J'avais commis ces fautes, j'étais comme tous ces hommes. Et par défaut je mangeais mes égos. Je crie à l'aide, qui sera le sauveur face au bain de sens. N'a pas de sens, destiné à mourir pour la croissance. C'est navrant, entends-tu leur souffrance dans les véhicules en matricule. C'est comme ça qu'on les nomme, qu'on les intitule. Je ne capitulerai pas, je préfère voir l'homme mourir. L'industrie est une menace jusqu'à leur dernier soupir. Le silence est glaçant et ça tombe sous le sens. Satisfaisant, mais leur coup vaut-il autant de souffrance. Qu'embroyer des enfants ne choque plus l'assemblée. Quand écorché vivant ne suscite pas d'intérêt. Je m'excuse, mais l'attitude à leur égard est nulle. Exploitation, consommation de manière assidue. Face à l'abattoir, chaque être, chaque vie compte autant que la tienne. Face à l'abattoir, chaque être, chaque vie compte autant que la tienne. Le cri est perçant, ce sont des victimes. Rien ne justifie ce crime si triste de les voir finir en vitrine. J'exige qu'on vous fasse la même et qui rira après. Tu vois pas le problème, c'est juste l'enfer dans les cages qu'on enferme. Fini les tours de passe-passe, les faits sont les faits. Qui est le plus fêlé? Fermez les yeux sur ton cruauté. J'ai le cerveau à l'endroit et crois-moi ou pas, j'ai pas fini d'en parler. Tant d'âmes sont damnées, facile quand t'es armé. J'aime quand je les vois sourire, là c'est plus possible. Séance chaotique, gare à toi et à ta carotide. Le silence en dit long sur toutes ces oppressions. Interdiction de diffusion, même à la télévision. C'est la course aux tordus, pourquoi subir tant de torture? Tu sais bien ce qu'ils endurent, toi et ta bande d'ordures. J'ai des images dans la tête qui feraient pâlir l'assemblée. Et les violences que vous faites pourront pas nous rassembler, ça jamais. Face à l'abattoir, chaque être, chaque vie compte autant que la tienne. Face à l'abattoir, chaque être, chaque vie compte autant que la tienne. C'est dit. Merci.
Merci beaucoup.
Rock-a-tong-tong, my heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tong-tong, my heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tong-tong, my heart is beating like a jungle drum.